Je sais pas ce qu'ils m'ont injecté, Seigneur, mais priez pour moi. Il paraît que c'est des micro-particules. J'espère qu'ils m'ont pas injecté la défunte puce, comme je vais dire. Alors, je sais pas ce qu'il y a dans le vaccin. C'est le vaccin Moderna, mais regardez. C'est un truc de fou.
L'enquête dont nous parlons ce matin n'aboutit ni à une énième cartographie des théories complotistes, ni à un portrait robot des femmes et des hommes qui y adhèrent. Comment cela serait-il possible d'ailleurs ? Il s'agit plutôt d'un voyage intime fondé sur la rencontre, le dialogue, la compréhension, plutôt que le rejet et le combat des complotistes. Un journaliste chargé de la lutte contre les fausses informations au Monde passe du temps avec celles et ceux qui s'avèrent complètement immunisés contre la vérité. Plus rien ne semble avoir prise sur eux. Ils voient des ennemis partout, même là, surtout là où ils sont invisibles. Avec la pandémie, vous et moi commençons à connaître dans nos entourages des gens qui ont d'abord douté du vaccin et qui maintenant semblent douter de tout. Les conversations deviennent impossibles. Justement, le livre de William Enduro constitue un petit manuel pour recréer du lien, un plaidoyer pour tendre la main, car du complotisme, parfois, on revient.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Et je me suis
trompée. Il correspond à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital.
Alors, rien de tout ça n'est réel ?
Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau.
La génération qui a biberonné à Matrix lève le doigt. Bonjour William Enduro, et non pas Enduro comme je l'ai dit tout à l'heure en intro.
Bonjour Sonia, merci.
Bonjour à
merci
vous, je rappelle que donc vous êtes journaliste au Monde, que vous êtes chargé de la lutte contre les fausses infos et de l'étude du complotisme au sein de la rubrique Les Décodeurs, que vous êtes une ancienne plume de l'excellent service Pixel, hein, qui couvre le jeu vidéo et le marché du numérique. Le petit bouquin dont on va parler ce matin, un petit bouquin, il fait presque 300 pages, est sorti chez Alary Éditions et s'intitule Dans la tête des complotistes. Et j'insiste sur les complotistes, car vous en avez rencontré beaucoup. Et au fond, il n'y a pas un complotisme qui ressemble à l'autre, il n'y a pas un complotiste qui ressemble à l'autre. On peut commencer par le fait qu'ils rejettent tous, alors là, ils ont ça en commun, en bloc le mot de complotiste. Comment se qualifient-ils, eux ?
Alors, il y a toute une variété différente d'expressions pour se qualifier. Alors ça va être les questionnistes, les dubitatifs pour certains.
Les éveillés.
Les éveillés, bien sûr, les chercheurs de vérité, les lanceurs d'alerte. Mm-hmm. Donc il y a vraiment toute une...
résistants.
Mais il y en a une quinzaine, qui leur permettent de se donner un petit peu le beau rôle.
Ouais.
Parce que forcément, dans le récit qu'on se fait, quand on est complotiste, on est un défenseur de la vérité, de la liberté, etc. Et le terme de complotiste, effectivement, ils sont très nombreux à le rejeter. Quelques-uns l'assument, en général, c'est les plus anciens.
Mm-hmm.
Mais il y en a beaucoup qui estiment que ce mot n'a aucun sens. Ils le fustent.
Karine, Stéphane, Terry, Romain, Tim, Sabine, Raphaël, enfin, ils sont très nombreux dans votre livre. Certains sont vos adversaires acharnés, même vos trolls. Certains vous attaquent frontalement, nominalement sur les réseaux chaque fois que vous publiez quelque chose pour Le Monde ou que vous intervenez sur Twitter. Donc ce geste de la main tendue de la part d'un journaliste qui est souvent une cible, vous l'avez vous-même réalisé. Ils sont d'autant plus difficiles, à appréhender que justement ils ont la sensation de s'être éveillés, ils ont la sensation qu'ils ont été longtemps endormis et qu'ils ont fait l'effort de se renseigner, de comprendre, de travailler, de se prendre en main, et justement ils sont fiers de cela, et c'est là qu'il est très difficile d'aller les chercher.
Ouais, tout à fait. Dans le complotisme, ce qu'il faut bien voir, c'est que au-delà d'avoir l'impression d'avoir découvert la liberté, la vérité, on s'imagine s'être débarrassé de tout un ensemble de représentations qui seraient fausses et surtout mensongères, et c'est extrêmement flatteur d'un point de vue narcissique. Ça, c'est quelque chose que tous disent, notamment ceux qui en sont sortis, c'est que finalement ça permet de se sentir meilleur, et souvent ça pense, déplaît, c'est souvent des personnes qui sont en besoin de reconnaissance. Mmh. Et ces théories du complot, ces contre-récits, comme je les appelle souvent, c'est un petit peu des totems qu'on peut brandir en disant « Regardez, moi j'ai compris quelque chose que vous n'avez pas compris. Ouais. » Donc c'est extrêmement satisfaisant.
C'est ça, et c'est-à-dire qu'à leur rencontre, vous finissez quand même par dresser des invariants psychologiques. Vous dites finalement « on peut devenir addict à la contradiction ».
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, sur les invariants psychologiques, je pense qu'il faut pas se tromper. Il n'y a pas un seul modèle de complotisme. Ils sont tous très différents, avec des histoires qui sont souvent complexes. Mais c'est vrai qu'il y a certains éléments qui reviennent.
Oui.
Déjà, c'est tous des idéalistes. C'est des idéalistes qui sont un petit peu drogués à la déception. C'est un peu le paradoxe. Des idéalistes qui sont drogués à voir le monde en noir. C'est également très souvent des personnes qui se vantent d'être rebelles. Qui ont un besoin de s'affirmer dans l'opposition. C'est quelque chose qui revient très souvent. Il y a également un certain nombre de personnes qui ont un besoin de se rassurer, qui ne supportent pas les périodes d'incertitude, les moments où ils ont du mal à comprendre ce qui se passe.
Mmh.
Et on comprend bien pourquoi en période de pandémie,
évidemment.
Ça a été évidemment un tremplin fabuleux. Mais ce qui est paradoxal, c'est que vous n'avez pas besoin d'être les deux, finalement, pour adhérer aux théories du complot. Vous pouvez être très bien rebelle,
oui,
sans avoir besoin d'être rassuré.
Oui.
Mais c'est deux portes d'entrée différentes qui mènent à un même attrait.
C'est ça. Le trou du lapin, qu'est-ce qu'on appelle le trou du lapin ?
Ah, alors le trou du lapin, c'est ce moment où on commence à rentrer au contact avec des théories du complot et où, évidemment...
Par exemple le vaccin, par exemple le pass sanitaire, voilà.
Par exemple, et où d'un seul coup on se dit « Oh là là, mais en fait, jusqu'à présent, tout ce que je croyais savoir était un mensonge ». Et il y a cette idée, vous savez, c'est une métaphore qui vient de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles. Une fois qu'on est de l'autre côté du terrier, on voit la réalité d'une manière complètement différente. Et ce qui paraissait vrai devient mensonge, ce qui paraissait faux commence à devenir vrai.
Donc il y a un effet de contagion, c'est cela, c'est ce que vous expliquez. Il y a un effet de contagion petit à petit, le doute s'immisce partout et de plus en plus d'ennemis se présentent à nous.
Oui, tout à fait. Là-dessus, c'est très important de voir que la théorie du complot, c'est pas forcément juste les petits hommes verts ou la Terre plate, qui est souvent la caricature qu'on est donnée. Alors certains y adhèrent, mais au fond, c'est une minorité. On commence toujours par une théorie du complot.
D'ailleurs, c'est assez drôle, William Oduro, parce que vous dites, les extraterrestres, c'est vraiment la limite. C'est-à-dire, chez la plupart des complotistes que vous rencontrez, ils ont quand même vraiment du mépris pour les gens qui croisent les extraterrestres. Et d'ailleurs, ils vous disent, ça, c'est les vrais complotistes.
Oui,
nous,
on
est des éveillés.
Oui, tout à fait. Ouais, il y a des clivages au sein des complotistes. J'ai même eu des complotistes qui m'ont expliqué que la théorie de la Terre plate était probablement une invention qui avait été lancée dans le débat public pour décrédibiliser les vrais complotistes.
C'est ça. Ouais.
Donc c'est-à-dire qu'il y a même des théories du complot sur les théories du complot qui paraissent extrêmes. Mais il faut pas s'imaginer que tous les complotistes adhèrent aux mêmes choses, ni même qu'ils adhèrent aux théories les plus extrêmes. En général, quand on adhère aux théories les plus extrêmes, c'est qu'on a déjà adhéré à toutes les théories avant. Il y a un effet d'escalier, en fait.
Oui, c'est ça. L'effet de groupe est évidemment une sorte d'accélérateur. C'est quelque chose, c'est un cocon protecteur. Et vous dites, au fond, dans le complotisme et la façon dont il s'exprime en ligne, avec des outils qui permettent les effets de groupe, les effets collectifs, les effets de meute, dans ce qu'il a de meilleur, c'est un vrai truc de fraternité, en fait, un vrai mouvement de fraternité.
Ouais, tout à fait. Il y a une idéalisation du nous qui est extrêmement importante. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont dans des théories du complot et qui ont pu dériver, par exemple, vers des idées anti-vaccin, alors qu'ils n'étaient pas du tout anti-vaccin au départ, c'est en suivant le groupe. Et c'est ce groupe-là aussi qui fait qu'il est très très dur d'en sortir, parce qu'on se crée des amis. Alors évidemment, là encore, on en revient à la question de la pandémie. À un moment donné où tout le monde s'est retrouvé isolé, ce collectif-là, il a permis de donner l'impression à beaucoup de monde de ne plus être isolé du tout.
Mm-hmm.
Et quand on écoute leur discours, quand on écoute surtout leurs chansons, parce que dans certains cas, il y a des chansons complotistes, le « nous » est omniprésent. On est une famille, on est ensemble, on va y arriver en se serrant les coudes.
Mais c'est nous contre les autres, c'est-à-dire il y a toujours l'idée du in-group et de l'out-group.
Toujours. C'est-à-dire que le complotisme repose fondamentalement sur une opposition entre nous et eux.
Mm-hmm.
Alors c'est étrange, parce que c'est jamais nous contre vous, par exemple, parce que cet ennemi, il est jamais tout à fait présent, il est un peu flou, très changeant. Pour certains, ça va être le deep state, ça va être
Big Pharma. Le deep state, c'est l'état profond, hein, l'idée que l'état est manipulé par des forces invisibles.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant...
Big Pharma, c'est le lobby des grands laboratoires pharmaceutiques.
Tout à fait. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en creusant un petit peu peu en parlant avec avec certains, mais ils admettent en fait qu'ils savent pas exactement qui est l'ennemi. C'est-à-dire que quand ils utilisent ces termes, ils le font un peu faute de mieux. Et pour le coup, c'est quelque chose que je trouve d'extrêmement touchant. C'est-à-dire, ils sentent qu'il y a un problème. Ils n'ont pas forcément toujours les mots pour désigner un coupable précis, mais ils ont des expressions qui permettent de dire « Ok, les méchants, c'est par là. Mm-hmm. » Mais la base, c'est quand même un récit manichéen où ils jouent le bon rôle contre un ennemi plus ou moins précis.
C'est ça. Et plus on met de la foi, parce que vous parlez même d'une forme de complotisme qui s'appuie sur une foi religieuse, plus on y met une foi religieuse, et plus le manichéisme est outrancier.
Bien sûr, parce que on rejoue la lutte du bien contre le mal.
C'est ça. Et c'est le mal avec le M majuscule.
Tout à fait. Et c'est une opposition qui est en germe dans la plupart des religions. Et donc, effectivement, on trouve un complotisme chrétien, bon, pas que chrétien par ailleurs, hein, mais qui se nourrit très aisément de ces représentations-là. Vous savez, c'est l'idée que le malin avance à visage découvert, et que la plus grande ruse du diable, c'est que on pourrait douter de son existence. Mm. Le complotisme fonctionne exactement de cette façon-là. La preuve, d'une certaine manière, que le mal est parmi nous, c'est qu'on n'est pas capable de savoir exactement qui il est, ni de savoir quel est son visage. Donc c'est vraiment la même manière de penser, peut-être poussé à l'extrême, évidemment.
Et parmi ces adversaires mal définis ou définis pour de mauvaises raisons, il y a les Juifs. Et voilà, un autre invariant du complotisme. Ouais. Même si la plupart des complotistes avec qui vous parlez ne se sentent pas antisémites et même réfutent l'idée qu'ils puissent être antisémites.
Ouais, tout à fait.
Et pourtant, ils englobent des discours très violemment antisémites.
C'est le grand paradoxe, et je sais très bien que ceux qui m'écoutent aujourd'hui seraient furieux si je les taxais d'antisémitisme. Certains m'ont fait des déclarations qui avaient l'air extrêmement sincères pour me dire que non, ils étaient extrêmement humanistes. Ils n'avaient pas une once d'antisémitisme. Mais à côté de ça, le paradoxe, c'est qu'ils relayent des rumeurs qui, pour certaines, sont vieilles d'un siècle et qui sont absolument antisémite, il n'y a pas vraiment de doute possible à avoir là-dessus.
Je rappelle que cet été, dans Le Monde, et il y en a aussi plusieurs chapitres dans votre livre, vous avez signé une grande enquête sur ce que c'est, un grand récit sur ce que c'est que le protocole des sages de Sion.
Ouais, tout à fait. En fait, le grand problème du complotisme antisémite, c'est qu'il est installé depuis très longtemps. Et si vous voulez, c'est une ressource en termes de récit qui est disponible. Or, quand vous rentrez dans le complotisme, comme je disais tout à l'heure, ce qui paraissait faux devient vrai. Et surtout, ce qui paraissait tabou devient envisageable. Or, qu'y a-t-il de plus tabou dans la société que l'antisémitisme? Pour des raisons assez évidentes.
Historique.
Or, plus vous avancez dans cette impression d'être éveillé, plus vous adhérez à cette idée que, mais finalement, ce qui était interdit, vous pouvez vous autoriser à l'envisager. Forcément, ces thèses ignobles deviennent possible, deviennent presque la satisfaction de s'être libéré complètement de l'emprise de ce que la société vous interdit de penser.
De toute façon, on en revient toujours à l'idée d'un populisme, c'est les élites contre le peuple et le peuple qui s'élève face aux élites et qui ouvre les yeux. Mais vous dites les complotistes forment une classe intermédiaire. Ils ne disent pas « nous le peuple », ils disent « nous pour le peuple ».
Ouais, tout à fait. Il y a un paradoxe propre au complotisme, c'est qu'on s'imagine le peuple, mais en même temps, comme on est les éveillés, comme on est une élite, on a besoin de se représenter au-dessus du peuple. Alors ça, c'est vraiment un paradoxe que je trouve absolument fascinant. Et du coup, il y a toujours cette espèce de positionnement, on s'imagine être une espèce d'avant-garde du peuple, c'est-à-dire qu'il faudrait l'éveiller. C'est aussi pour ça qu'il y a un prosélytisme qui est aussi important dans le complotisme. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement d'être en avance, il faut vraiment essayer de se battre pour diffuser la bonne information, etc.
C'est pour ça que narcissiquement, ça fait du bien d'être complotiste.
Ça fait
c'est que quand on se sent disqualifié pour tout un tas de raisons intimes, psychologiques, familiales, conjugales, mais aussi professionnelles, ça fait du bien de se sentir un peu seul contre tous, un peu au-delà de ce peuple qui ne comprend rien et qui ne voit rien, de savoir ce que les autres ne savent pas, fait du bien.
C'est une pommade narcissique incroyable. C'est une pommade narcissique incroyable. Il faut bien voir une chose, c'est que la plupart des gens qui sortent du complotisme traversent en général une période de grande souffrance, de grande détresse. Parce que
qu'ils n'ont plus cette pommade-là.
On retire cette béquille qui est extrêmement puissante. Et c'est une vraie question que je me pose, c'est pour certaines personnes, pour qui c'est aussi important, tant qu'elles ne sont pas trop prosélytes, est-ce qu'il ne faut pas accepter l'idée que peut-être à petite dose, ça leur fait du bien? C'est une vraie question.
De toute façon, ce petit livre est un manuel pour recréer du lien. Pour recréer du lien dans la sphère intime. Vous racontez des trajectoires où des complotistes, des gens quand même relativement atteint, voire très atteint, très 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 atteint, et même programmé pour être totalement bouffé parce que vous appelez un parasite mental qui protège de tout et notamment de la vérité, en reviennent dans des moments de colère, de déception contre eux-mêmes, ils ont honte d'eux-mêmes. Et vous vous dites, on n'en revient pas à force de s'être fait taper dessus, de s'être fait moquer, de s'être fait rejeter par les autres. On en revient parce qu'on a une main qui nous est tendue.
Ouais, tout à fait. Alors ça, je dois remercier la plupart des complotistes repentis qui ont accepté de me parler également, parce que c'est eux qui ont pu me le raconter. En fait, à chaque fois que vous traitez quelqu'un de complotiste, le problème, c'est qu'il le vit très très mal et ça pousse à une forme de rupture. Alors cette rupture-là, elle peut être sans retour. Au contraire, il faut réussir, c'est vraiment très compliqué, hein, à faire fi de cette... voilà, de cette colère qu'on peut avoir contre un proche qui tombe dans des idées un petit peu délirantes.
Et il y a de quoi être en colère.
Bien sûr. Et notez une chose, ça m'est arrivé plein de fois moi-même de pas respecter ce que je peux dire. Mais ce qui marche, c'est la bienveillance. En tout cas, c'est quelque chose qui revient. C'est le moment où on sent que finalement, on n'a pas tant que ça à perdre, à rester avec les gens qu'on aime, plutôt que de s'enfermer avec des personnes finalement on ne connaît pas forcément. Vous savez, encore une fois, c'est le propre d'une dérive un petit peu sectaire, hein, c'est qu'on joue une famille contre une autre. Alors, il est important d'avoir toujours un lien avec ses proches, parce que c'est ce lien-là qui permet souvent d'éviter de dériver complètement. Alors, donc je dis pas que ça marche à chaque fois, mais
vous vous donnez carrément les armes. Allez-y, les outils. Comment on fait avec des proches qui sont en train de basculer, qui vous sortent des inepties à longueur de coups de téléphone ou de repas familiaux, des inepties et puis au bout d'un moment des choses atroces, parfois ignobles, parfois antisémites, etc. Comment on fait? Eh ben, on essaye de continuer à se trouver des points communs. On reconnaît que les choses vont mal, etc., etc.
Ouais, tout à fait. Faut réussir à un moment donné à dépassionner le débat, c'est vraiment pas facile, hein, mais faut réussir à même quitter le champ du débat, essayer de revenir à du quotidien, revenir à des souvenirs, encore une fois, juste trouver ce qui nous relie. C'est pas facile, c'est Marie Pelletier qui explique ça très bien. À un moment donné, si
instiller le doute au lieu de combattre des vérités vérifiées.
En fait, c'est deux choses différentes. Dans un premier temps, vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture. C'est la première chose. Dans un deuxième temps, éventuellement, si on se sent suffisamment armé, essayer d'aller questionner ces croyances-là. Mais il faut réussir à ne pas le faire au niveau idéologique. Il faut essayer de dire, voilà, on va voir une affirmation très précise et ensemble, on va essayer de regarder si elle est vraie ou pas. Éventuellement, face à des discours prophétiques, dire, ok, d'accord, tu penses qu'il y a une prophétie, tu penses que Trump va prendre le pouvoir là le 12 décembre. Ok, eh bien, on fait un point au 12 décembre et on voit ce qui s'est passé. Mais c'est pas évident, il n'y a pas de recette clé en main. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut beaucoup de patience, il faut réussir à se maîtriser.
Est-ce que ça signifie que pour nous, médias, qui ne faisons que du fact-checking, c'est-à-dire de la vérification des faits, il faut aussi accueillir les complotistes dans nos studios, à nos micros, à longueur de couloir, leur donner de la place pour ne pas que le lien se défasse? Est-ce que ça signifie cela?
Alors moi, j'ai tendance à penser qu'il faut avoir un comportement absolument opposé dans la sphère publique et dans la sphère privée.
C'est ça.
Dans la sphère publique, il faut éloigner, vraiment rendre le plus invisible possible tous les discours complotistes, parce que des discours qui sont manipulateurs, facilement séducteurs, enfin il suffit parfois de quelques secondes pour se dire « Ah tiens, c'est intéressant ça !» alors que souvent ils reposent sur du faux, mais bien enrobés, et puis qui peuvent évidemment être dangereux, on le sait.
Et tendre la main dans le privé.
Dans le privé, par contre, il faut rester autour.
Merci beaucoup, William Oduro. Dans la tête des complotistes, une enquête beaucoup plus intime qu'il n'y paraît, mais je vous raconte pas tout, je vous laisse le lire, c'est sorti aux éditions Alary. Merci d'être venu dans l'Instant M.